Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de wargame, de brain games, de red team, c'est-à-dire de toutes ces manières de réfléchir et d'anticiper les conflictualités et les guerres à court et à long terme, j'ai le plaisir de recevoir deux chercheuses de l'IFRI et un chercheur de l'IRSEM. Alors tout d'abord, une invitée que les auditeurs connaissent bien maintenant, Amélie Ferret, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI et coordinatrice du LRD, le Laboratoire de Recherche sur la Défense. Je peux rappeler que vous étiez venue pour la dernière fois, il n'y a pas si longtemps, en fin d'année dernière, pour nous parler de ce concept et de cette pratique qu'est le lawfare. Donc bienvenue à nouveau dans le collimateur, Amélie.
Merci, bien, bonjour.
Ensuite, une nouvelle venue, Héloïse Fayet, chercheuse au même centre des études de sécurité de l'IFRI et coordinatrice du programme de recherche sur la dissuasion et la prolifération. Donc bonjour Héloïse, bienvenue dans le collimateur.
Bonjour.
Et enfin, un habitué du podcast, mais que je n'ai pas eu le plaisir de recevoir depuis un moment. Depuis, je crois que la dernière fois, c'était la sortie du rapport sur les opérations informationnelles chinoises. C'est dire si c'est il y a longtemps. Paul Charron, directeur du domaine renseignement, anticipation et stratégie d'influence à l'IRSEM. Bienvenue à nouveau dans le collimateur, Paul.
Bonjour Alexandre.
Alors, je vais dire tout de suite que c'est une émission qui s'articule autour d'une excellente note, un briefing stratégique de l'IFRI, donc vous êtes les deux autrices, qui s'intitule « Imaginer au-delà de l'imaginaire, Red Teaming et Serious Games au service de l'anticipation et de la prospective », où vous faites une sorte d'état des lieux de ce qui se fait, ou plutôt de ce qui commence à se faire depuis quelques années en France. Parce que, bon, je peux le dire, on a déjà parlé un certain nombre de fois à ce micro, notamment dans des émissions avec Antoine Bourguillot, où je pense qu'on peut dire qu'on plaidait, enfin surtout lui, mais en l'occurrence je m'associe bien volontiers à sa cause, pour qu'on prenne un peu plus conscience en France de toutes ces pratiques qui sont tout à fait courantes, voire hégémoniques, chez certains de nos alliés. Et de fait, pour en parler souvent de manière plus ou moins prosélyte, disons, autour de moi et autour de l'école militaire, en tout cas, je peux témoigner qu'il me semble que ça bouge un peu. Tout ça, que c'est un peu moins considéré comme des trucs de gosse ou des exercices spéculatifs sans intérêt, comme ça pouvait être encore un petit peu le cas il y a quelques années. Et je pense que c'est tout à fait le bon moment et la bonne occasion pour faire une sorte d'état des lieux de tout ça, comme vous le faites très bien dans l'étude, et puis aussi de le prolonger en entrant un peu dans le détail de ce que tout ça apporte, à la fois de la manière dont on le fait et de ce qu'on peut en tirer directement et indirectement. D'autant qu'on a ici à l'IRSEM un domaine qui réfléchit à ce même genre de problématique que vous dirigez, Paul Charron. Je vais rappeler que vous êtes aussi spécialiste des questions de renseignement, ce qui est un angle aussi tout à fait intéressant pour traiter de la question, ce que toutes ces pratiques apportent aussi à la collecte et au traitement du renseignement. Alors, pour commencer, il faut évidemment toujours faire un effort définitionnel, notamment des gros concepts qui sont dans le titre. Alors, bon, commençons par les anglicismes. Donc, on a Serious Games et Red Teaming, auquel je vais rajouter Wargaming, qui est le terme qu'on utilise le plus souvent, notamment en France, parce que bon, souvent, c'est le raccourci qu'on fait. Alors, expliquez-nous peut-être qu'est-ce qu'on recouvre, qu'est-ce que ça. C'est-à-dire, on en a parlé plein de fois, je peux renvoyer aux émissions qu'on a faites avec Antoine, qui au fond tournent toujours autour de cette même question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un wargame, un serious game, et à quoi ça sert. Et au fond, on peut en disserter pendant des heures et poser la question, c'est déjà avoir un peu la réponse, parce que c'est déjà la moitié du travail. Mais au fond, donc, une autre manière peut-être de poser la question, c'est peut-être surtout de savoir comment c'est compris en France, comment c'est compris par l'institution militaire. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on entend en France par ça, serious game, war game, il y a même brain game que vous m'avez fait découvrir, et red teaming. Alors je ne sais pas qui veut commencer.
Je vais peut-être commencer. Oui, en fait, justement, un des objectifs du briefing, c'était d'apporter une clarté conceptuelle, parce qu'on entendait beaucoup ces anglicismes, justement, qui se superposaient, qui n'étaient pas nécessairement bien définis. D'autant qu'on s'est aussi intéressé dans le briefing à la circulation des concepts, donc à comment un concept vient d'un pays, passe dans un autre pays, et ensuite utilisé par un autre pays. Et du coup, chaque institution, et notamment chaque institution militaire, se l'approprie. Et donc, on peut avoir des confusions à cause de problèmes de traduction. Donc l'objectif du briefing, c'était vraiment de cartographier ça et d'apporter un peu de clarté conceptuelle. Et ce qui était aussi intéressant, et c'était aussi un des points de départ de l'étude, c'était de voir comment il y avait derrière cette mobilisation d'anglicisme, parfois un peu marketing, une forme de discours en creux que tenait le ministère sur lui-même d'une institution qui avait besoin d'être modernisée, de changer ses méthodes de pensée en regardant du côté des États-Unis. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans le briefing. On a plusieurs catégories. Donc, d'abord, les serious games, qui est un terme qui, en soi, porte une charge, en fait, sur justement ce que vous avez dit, Alexandre, sur cette idée que les wargames, au final, c'est pour des enfants, ça n'a pas sa place dans la stratégie. Donc, pour montrer qu'en fait, les serious games ont une ambition de formation.
Mais le travers, c'est que du coup, serious, ça a l'air ennuyeux.
Mais pas nécessairement. Enfin, je pense que les avis peuvent être partagés parce que le problème des wargames, en l'occurrence, c'est vraiment d'apprendre les règles qui peuvent être très compliquées, très codifiées. Et donc, le problème qu'on a en France, c'est d'essayer de faire en sorte de simplifier l'accès à ces wargames pour les officiers, notamment. Et ça, c'est pas toujours évident. Donc, peut-être qu'eux diront que c'est ennuyeux, mais je pense que les efforts vont dans le sens contraire. Et vous avez donc de l'autre côté le grand.
Et donc, comment est-ce qu'on pourrait le définir, quoi ? C'est des jeux, des manières d'essayer de réfléchir à des problèmes de manière plus ou moins ludique, mais quand même sérieuse, c'est ça ?
Non, vous avez deux définitions. Il y a le red team, enfin le red teaming compris dans le sens anglais ou américain, qui vise à essayer de changer sa méthode de pensée. Et une des manières de changer sa méthode de pensée, c'est justement de faire des wargames. Voyez, c'est pour ça que les deux sont liés et se recoupent. Et donc, vous avez plusieurs définitions. Vous avez soit essayer de réfléchir par des scénarios, donc ça, c'est plutôt du red teaming, soit réfléchir par une analyse structurée en prenant conscience de vos biais, soit réfléchir sur plateau en justement incarnant un des belligérants et donc voir quels sont vos réflexes, comment vous allez manœuvrer, comment vous allez innover par rapport à une doctrine. Et c'est toutes ces idées, même les brain games dont Héloïse, je pense, parlera, ça vise vraiment à cette idée de changer sa méthode de pensée. Et c'est pour ça que le ministère, avec ces multiplications de termes, vise vraiment à faire une forme de révolution cognitive.
Alors, on a à peu près une définition du wargame, on commence à avoir une définition du red teaming, mais il faudrait y revenir parce qu'il y a une ambiguïté. Maintenant, les brain games, que moi-même, c'est une expression que j'ai déjà croisée, je pense, mais que je connais, c'était très flou dans ma tête. Donc, qu'est-ce que ce serait, Loïs Fayet, que ces brain games ?
Alors, au ministère des Armées, en France, en tout cas, les brain games sont une nouveauté qui date, en fait, de l'arrivée au poste de chef d'état-major des armées du général Burkhardt, qui, semble-t-il, s'est assez rapidement saisi de ces nouveaux outils conceptuels et qui semblent très désireux et volontaires d'accéder très rapidement à un niveau de connaissance sans forcément passer par la lecture habituelle de notes ou de briefings. Et l'une de ces façons, c'est de passer par l'incarnation, donc ce qui peut se faire au travers de serious games, de war games, du red teaming, qui, comme l'a dit Amélie, repose sur le fait d'incarner l'ennemi et potentiellement de le modéliser. Et on peut dire que pour l'instant, en France, les brain games sont une sorte de version très simplifiée du wargaming, voire une sorte de scénarisation tout simplement d'un problème. C'est-à-dire que l'état-major des armées va régulièrement mettre ensemble des chercheurs, des anciens ambassadeurs, des diplomates en cours d'exercice et des militaires, et puis leur proposer des scénarios que l'état-major des armées a lui-même rédigés, et leur proposer ce scénario afin de voir comment par exemple, l'ambassadeur de France, enfin l'ancien ambassadeur de France en Allemagne, qui connaît donc bien le système allemand, va réagir et il va en fait incarner le pays qu'il connaît. Donc c'est une sorte de scénarisation d'un problème qui va permettre de faire émerger potentiellement des hypothèses d'engagement, des hypothèses d'évolution, donc faire de l'anticipation à court terme, enfin à moyen terme. Généralement, c'est des scénarios qui se déroulent à plus 6 mois, 1 an. Et puis surtout, vu que ce sont des durées assez courtes et qu'il n'y a pas de règles ou de petits pions sur un plateau comme il peut y avoir généralement dans les wargames, c'est quelque chose qui est considéré comme assez accessible. Et ça, c'est extrêmement important pour un chef militaire et a fortiori pour le SEMA. Il n'a pas beaucoup de temps, il n'a pas forcément non plus le temps de s'intéresser à des règles très complexes. Et donc les brain games sont une sorte, on va dire, un peu primitive de wargaming et de scénarisation et surtout de modélisation en fait d'un problème complexe afin de le rendre plus facilement compréhensible à une haute autorité militaire.
Mais c'est intéressant parce que, bon, pour prendre une analogie qui serait celle du jeu vidéo, c'est donc on a un jeu vidéo qui est très scripté, quoi.
C'est ça.
On peut prendre des rôles à l'intérieur, mais dans le fond, le scénario, il est quand même déjà rédigé par d'autres personnes qui, on voit bien l'avantage que ça a, effectivement, c'est facile à jouer. Parce que, bon, y a pas, on n'a pas à se perdre en conjecture. En même temps, pour ce que vous indiquiez tout à l'heure, Amélie Ferret, c'est-à-dire penser différemment, etc., etc., essayer de changer un peu ses manières de penser. Enfin, c'est-à-dire, parce qu'il y a moins de désorientation, précisément, il y a aussi moins, probablement, de remise en question de ces manières originelles de penser.
Oui, les brain games, donc, c'est une porte d'entrée vers d'autres façons de penser et de concevoir un problème. Là, ce qui est nouveau, c'est plutôt la méthode et effectivement une sorte de début de révolution cognitive au ministère des Armées. Mais c'est certain qu'on ne retrouve pas du tout la même liberté d'engager, la même liberté de tester certaines hypothèses qu'on peut avoir dans le wargaming ou plus largement dans les serious games.
Et ouais, c'est intéressant ce terme de révolution cognitive, parce que c'est très impressionnant, et puis je ne sais pas vraiment pour l'instant encore ce qui se cache derrière. Mais c'est, alors peut-être revenons maintenant sur cet autre terme qui est encore dans le titre, qui est le red teaming. Alors là, c'est intéressant puisque vous soulignez qu'il y a une ambiguïté fondamentale, notamment dans le contexte français, mais qui est vraiment centrale, parce que je peux témoigner que c'est la raison pour laquelle il y a plein de conversations où en fait on ne parle pas de la même chose avec certaines personnes, notamment quand elles viennent de l'étranger. Donc le red teaming, parce qu'en France, la red team, là c'est la red team, on en reparlera, mais c'est la red team, c'est les auteurs de science-fiction du ministère des Armées qui font des scénarios de rupture, etc. etc. On aura le temps et l'occasion d'en reparler dans cette émission. Or en fait, ce n'est pas vraiment ça que ça veut dire dans un contexte américain, ce qui fait qu'on s'est mis un petit peu tous ensemble dans une ambiguïté insondable désormais, puisque la red teaming a eu un tel succès public que maintenant l'exception s'est un peu figée, on dirait. Amélie Ferret ?
Mais oui, tout à fait. En fait, il y a vraiment une confusion entre nous en France, où on pense red teaming dans l'idée d'incarner son ennemi, et donc de penser les rouges, en fait, avec soit leur système d'armes, leur tactique, leur doctrine, voilà, et l'acception plutôt américaine, qui là vise d'abord, en fait, à faire l'avocat du diable. C'est vraiment la tradition de l'avocat du diable, qui est donc une fonction qui a été en fait théorisée au sein de l'Église catholique pour opposer, en fait, dans une volonté de reprendre le monopole de la canonisation, donc de décider qui va devenir saint ou non. Et donc là, l'Église catholique a institué une fonction qui s'appelle l'avocat du diable pour essayer donc de vérifier si vraiment la personne était sainte ou non. Et là, c'est exactement la même chose. Le red teaming aux États-Unis, c'est vraiment, on va essayer de se faire l'avocat du diable pour voir nos impensés et surtout pour aboutir à une meilleure prise de décision. Et donc les Américains ont créé en 2004 une université du red teaming à Kansas City au sein donc de l'armée, donc c'est sous l'autorité du TRADOC qui est leur équivalent CDEC, donc plutôt armée de terre.
Et là, donc, CDEC, rappelons, c'est le centre de doctrine et d'enseignement du commandement. Bon, globalement, c'est un endroit où on réfléchit aux manières de commander, aux évolutions de la doctrine. C'est pas très loin d'ici, à l'école militaire. Donc, il y a évidemment un équivalent aux États-Unis, parce qu'il y a des équivalents de tout aux États-Unis, sauf qu'ils ont plus de moyens et plus d'effectifs. Et donc là, il y en a un qui a pris sous son aile ce boulot du red teaming.
Exactement. Et ils ont publié, donc là, je vous invite et j'invite tous les auditeurs à aller regarder sur Internet, ils ont publié un manuel du red teaming, qui est une forme de doctrine, en fait, du red teaming, où ils expliquent comment ils forment leurs officiers à penser différemment, à penser de manière empathique. Ils donnent des exercices à faire. Notamment, ils les emmènent dans des musées et ils ont 15 minutes pour décrire ce qu'ils ressentent face à un tableau. Enfin, c'est assez divers comme méthode.
Je paierais assez cher pour voir des officiers américains être emmenés dans un musée et qu'il y ait un débriefing instantané. Enfin bon, bref, peu importe. En France, donc on est sur un truc beaucoup plus terre-à-terre, c'est-à-dire le red teaming, c'est on fait un scénario, il y en a certains qui jouent, les Chinois, les Russes, qui on voudra. Et c'est ça pour nous, le red teaming en général.
Exactement. Donc en fait, nous, ce qu'on appelle red teaming, c'est ce qu'eux appellent des red cells. donc des cellules rouges qui visent, quand on veut faire un ordre ou quand on veut faire une manœuvre, on va détacher un petit groupe de personnel militaire qui va incarner l'ennemi et qui va dire, bah voilà, moi si j'étais l'ennemi, j'avancerais de telle et telle manière, je procéderais de telle et telle manière. Un peu ce que font aussi d'ailleurs les white hackers pour le cyber, hein, qui vont tester la résistance ou la robustesse d'infrastructures. Et donc, il y a cette confusion entre...
Ce à quoi il faut donc rajouter en plus la confusion qu'on a balancé la red team dessus du ministère des Armées, c'est-à-dire des auteurs de science-fiction qui font des scénarios de rupture, etc. etc. Donc au final, il y a au moins trois acceptions différentes pour ce terme de red team. Donc je pense qu'on va tous être d'accord pour dire qu'il vaut mieux le jeter à la poubelle et en trouver d'autres, parce que ce sera beaucoup plus simple à ce stade, mais évidemment, ce serait trop simple. Mais enfin, un dernier élément peut-être dans ce titre qu'il faut creuser, c'est la question de l'anticipation et de la prospective. Alors d'abord, essayer de faire une distinction conceptuelle, pas forcément évidente entre les deux, et puis surtout, parce que là, c'est des choses, certes, mais ça peut être quasiment des choses en temps réel, c'est-à-dire on peut tester des plans dans deux semaines, deux mois, deux ans, etc. Mais pour l'idée de l'anticipation et la prospective, c'est donc de voir plus loin, de voir, d'analyser des tendances, etc., etc. Donc dans quelle mesure est-ce que tout ça aide cette fonction, cette prospective, qui est, je peux le dire, une préoccupation qui monte de plus en plus au sein du ministère des Armées. Je ne sais pas, Paul Charron ?
Oui, il y a cette distinction entre anticipation et prospective, elle est très française en fait, on la retrouve assez peu ailleurs. C'est essentiellement jusqu'où on se projette dans l'avenir. Donc l'anticipation verrait moins loin que la prospective, disons. Et c'est là que certains voient une différence entre l'anticipation qui reste sérieuse, disons, et la prospective qui devient le royaume de la fiction, voilà, et des scénarios en tout genre. Et je crois que c'est pas une distinction si fondamentale que ça. Je crois que la vraie distinction à faire, c'est plutôt entre prédiction d'un côté et anticipation prospective de l'autre. Dans le sens où la prédiction, c'est vraiment le domaine des sciences exactes, des sciences dures, comme on dit, celles qui peuvent établir des lois vérifiables en laboratoire, donc la physique essentiellement. Et là, oui, effectivement, on peut faire de la prédiction. Mais quand on fait de l'anticipation ou de la prospective, on ne peut pas faire de prédiction, on n'établit pas des lois. Ce qu'on peut faire en revanche, ou ce que l'on fait en fait, sans le dire, c'est une herméneutique. C'est une interprétation. En fait, on a des signes que l'on essaye d'interpréter, que l'on essaye de relier entre eux pour imaginer des futurs possibles. Et c'est très intéressant parce qu'une chose que l'on n'a pas dit, c'est qu'on parle de révolution au sein des armées, mais en fait, c'est une révolution qui touche tout un tas de disciplines des sciences humaines et sociales. Et s'il y a bien une discipline qui, en ce moment, connaît cette révolution, c'est la littérature, c'est les lettres, les études de lettres. Et je pense, par exemple, aux travaux de Nancy Murzilli qui montrent comment nos fictions quotidiennes jouent un rôle de prédiction. Mais ce qu'elle entend par prédiction, c'est que, en fait, et quand elle parle de fiction quotidienne, c'est on imagine la réponse de mon chef quand je vais lui demander une augmentation, c'est la pratique du tarot pour imaginer ce qui va m'arriver dans les années à venir, etc. C'est vraiment la fiction du quotidien.
Je ne vous aurais pas pris pour quelqu'un qui tirait le tarot.
Non, mais ne présumez pas.
D'accord.
Et ces fictions quotidiennes, Nancy Murzini nous explique qu'en fait, elles constituent non seulement des expériences de pensée, et ces expériences de pensée permettent de constituer des stocks de futurs possibles qui nous aident à réagir quand le futur survient. Et donc, plus on a un stock important, plus on est capable de réagir, plus on est résilient. Et c'est ça, je crois, qui est important dans l'anticipation. Personne, enfin, ou en tout cas, les gens sérieux ne pensent pas qu'ils vont véritablement anticiper le futur. C'est pas ça l'idée. La véritable fonction de l'anticipation ou de la prospective, peu importe, c'est de nous permettre de réagir plus efficacement, plus rapidement, lorsque l'avenir viendra, lorsque la surprise viendra, parce que surprise, il y aura. Et du coup, c'est une des transformations qui ne concernent pas seulement les études stratégiques, mais l'ensemble des sciences humaines et sociales, de la même manière qu'on observe en ce moment un effacement de la frontière entre voilà, les sciences humaines et sociales et la littérature de l'autre côté, avec des historiens que vous devez sans doute connaître, qui voilà, utilisent la narration aussi comme un outil de recherche. Donc les frontières sont en train de bouger en ce moment, et je pense que les études stratégiques en profitent.
Et c'est juste, c'est très important de dire ça, parce que Antoine Bourguillaud le dit littéralement à chaque fois qu'il vient à ce micro, mais c'est très important parce que ça dit ce qu'on peut attendre ou pas des serious games et surtout des wargames. Et c'est la tarte à la crème sur laquelle il faut faire attention quand on le voit venir. C'est ce wargame qui prévoit ça, 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 ça. Non, un wargame, en l'occurrence, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'était la grande offensive ukrainienne qui est préparée par des wargames à Washington, etc., etc. Et est-ce que ces wargames nous renseigneront sur l'issue de l'offensive ukrainienne ? La réponse est non. Même chose, on en reparlera peut-être parce que c'est un sujet qui revient souvent, mais la question des États-Unis, Taïwan, la Chine, une invasion éventuelle de la Chine face à Taïwan. Donc rappelons qu'on peut jouer toute la journée, ça ne prédit rien, ça ne nous aide pas du tout à savoir ce qui va se passer, ça aide éventuellement à être prêt pour le jour où ça se passe ou pas, réagir peut-être plus efficacement. Héloïse Feuillet ?
Oui, et c'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que la Red Team Défense a été parfois mal comprise en interne du ministère des Armées.
Donc ça, rappelons, c'est les auteurs de science-fiction.
Les auteurs de science-fiction et financés par l'Agence d'innovation de défense. On y reviendra ensuite sur la partie spécifique des limitations justement de la Red Team Défense. Mais j'aime beaucoup l'expression de stock de futurs possibles. Et effectivement, l'initiative de la Red Team Défense et puis même d'autres travaux de prospective à long terme comme choc futur du SGDSN et de la FRS visait justement à tout simplement faire un panorama de certains futurs possibles sur une échelle de très peu probable à un peu plus probable. Et effectivement, il ne faut pas les voir comme ce qui va forcément se passer avec des degrés de plus ou moins certains, mais en tout cas des scénarios qui sont parfois très disruptifs afin de pouvoir potentiellement s'y préparer si c'est ça qui arrive. Mais ce sont effectivement uniquement des futurs possibles, voire des futuribles, que pour citer l'association française qui fait de la prospective.
Oui, tout à fait. Alors, juste, j'aurais aimé passer un petit moment sur... Parce que, donc, on le dit, ça arrive en France. On s'y met, révolution cognitive, etc., etc. Enfin, bon, on a quand même au balbutiement. Et c'est quelque chose, clairement quelque chose qui vient d'ailleurs. Il y a une inspiration, alors notamment américaine, mais pas que, etc. Donc, simplement, voilà, est-ce qu'on peut trouver des exemples, des modèles, des fonctionnements, des organismes qui font ces choses-là à l'étranger et qui... on l'imagine, aurait fourni des exemples plus ou moins à copier ou en tout cas à adapter en contexte français. Je sais pas, Amélie Ferret ?
Ça dépend de quoi on parle exactement. Déjà, j'aimerais simplement compléter donc ce qu'a dit Paul. Et je trouve que le lien entre ce qui se passe dans l'université, les sciences humaines et la manière dont on pense la stratégie, parce qu'il s'agit quand même de ça, est extrêmement intéressant. Et effectivement, il y a un dialogue très fort parce que d'où, enfin, cette idée de red teaming, notamment donc dans cette Red Team University, elle a été beaucoup aussi nourrie par le
ça,
développement.
Ça, c'est les Américains au Kansas.
Exactement. Non, mais voilà, il faut suivre. Ça a été nourri par les sciences cognitives. Et par de double apport, en fait, des sciences cognitives qui nous ont permis de mieux comprendre comment le cerveau humain traitait l'information, donc au départ pas du tout dans la sphère militaire, hein, et également par la technologie, et notamment par l'informatique, qui a permis en fait de modéliser cette prise de l'information, mais encore une fois, pas dans la sphère militaire, en prenant en faisant de la statistique et en prenant des échantillons très importants de données et en faisant justement à partir de ça des tendances, des prédictions, par exemple des sociétés comme Hypermind, enfin c'est toute cette utilisation de la technologie qui a permis aussi de nourrir cette réflexion sur les sciences cognitives. Donc les armées, elles ont vu ça, surtout les armées aux États-Unis, c'est sûr, mais les États-Unis se servent de ce qu'ils ont appris pour le diffuser, notamment via l'OTAN. Et là, j'ai fait donc pour cette étude, j'ai participé à une journée d'études qui avait été organisée ici à l'école militaire par donc l'armée de terre et qui visait à présenter donc ce que faisaient les différentes armées en termes de wargame. Et donc il y avait les Allemands qui sont très présents sur le sujet, les Britanniques qui sont aussi très présents sur le sujet, les Belges qui sont un peu moins présents mais qui s'y intéressent. Et ce qu'on voyait dans cette journée d'études, c'est qu'en fait les États-Unis, eux, ils comme il s'appuie sur l'industrie privée du wargame, qui est très prolifique, et donc qui permet, donc de parce qu'ils ont une demande qui est importante, d'avoir une offre aussi qui est importante derrière et qui est attractive, ils utilisent cette industrie privée pour vendre des wargames à leurs partenaires européens, en les ajustant en fonction des besoins opérationnels des armées concernées. Et du coup, ça leur permet d'avoir un levier d'influence en testant des concepts d'emploi, des forces, en les diffusant chez leurs partenaires et aussi en diffusant des visions du monde. Par exemple, les Allemands disaient que eux, les wargames avec les Américains, ça leur permettait de mieux comprendre le fonctionnement des Américains. Ils disaient aussi que dans leurs wargames qu'ils faisaient avec les Américains, bah, c'était toujours l'Allemagne qui était la nation partenaire et pas la France. Donc je trouvais que c'était intéressant de voir comment cette industrie privée aussi, ou en tout cas cette monétisation des wargames, elle permet des circulations, et c'est la manière dont les autres armées s'acculturent à ces innovations-là.
C'est très intéressant parce que ça donne même une notion des échelles, quoi. Le fait qu'il y ait une académie de Ratimi, le fait qu'il y ait une industrie privée, enfin je veux dire, en France on les compte sur les doigts d'une main les gens qui font du wargaming, qui sont capables d'organiser un wargame, il n'y a pas besoin de tous les doigts, quoi. Donc, enfin, c'est étonnant de penser, mais il suffit de lire des articles. Hein. Je peux dire que l'excellent site américain War on the Rocks regorge, parce qu'ils réfléchissent beaucoup au wargaming. On peut dire c'est une tendance de quelques années. Ça fait pas tout à fait une décennie que le wargaming a été très relancé aux États-Unis, même si ça a jamais disparu. Mais du coup, il y a une espèce de profusion et aussi de réflexion méthodologique. Ils passent leur temps à essayer de se demander s'ils font les bons wargames, comment ils pourraient améliorer. Il y a des pages qui sont noircies là-dessus, etc. Enfin, c'est un vrai endroit de réflexion stratégique hyper importante aux États-Unis.
Oui, ouais. D'ailleurs, si je peux ajouter justement des éléments sur ça, sur pourquoi ils passent autant de temps à y penser, je pense qu'il y a eu cette réflexion sur le problème d'avoir une suprématie technologique, comme ils l'ont eu par exemple sur des théâtres comme en Afghanistan, qui ne s'est pas soldée par une victoire sur le terrain. Et ça induit quand même toute une injonction à la réflexivité. Et par ailleurs, l'autre point qui fait qu'aujourd'hui on voit un engouement pour les wargames, pas simplement aux États-Unis, mais aussi en France, en Allemagne et dans les nations OTAN, c'est la prise en charge de ce qu'on appelle le M2MC, c'est-à-dire le multi-milieu multi-champ. C'est-à-dire que comme vous avez des interventions qui se complexifient avec différentes armées, avec des coalitions, donc des problèmes d'interopérabilité, la prise en charge des champs cyber, des champs spatiaux, ben, le wargame, ça va vous aider en fait à modéliser et à prendre en compte toutes ces informations, tout en travaillant sur la collaboration et le partage d'informations.
On n'a pas du tout le temps de faire un point sur ce qu'est le M2MC, parce que franchement, ça prendrait plusieurs émissions, mais globalement, disons, c'est ça, c'est l'idée d'une intégration interarmes, etc., et qui va dans tous les champs, qui va depuis le spatial au cyber, etc., parce que maintenant, pour faire une bonne opération, il faut faire une opération avec tout le monde, où tout le monde participe, et donc il faut trouver des manières que tout le monde interagisse. Et pour ça, on peut dire un des avantages du wargame, c'est qu'au moins vous pouvez mettre des officiers de toutes les armées autour d'une table et vous pouvez les habituer à jouer ensemble. Et c'est déjà un tout petit premier pas, mais c'est déjà l'essentiel. Toujours mieux que de se lancer dans une opération et qu'ils se découvrent les uns les autres complètement, comme c'est arrivé plus d'une fois. Héloïse Fayet ?
Oui, en revanche, sur le problème du M2MC ou même de l'interopérabilité dans les wargames, c'est que c'est extrêmement difficile à modéliser. C'est pour ça notamment que pour l'instant, il semblerait que la Marine nationale soit la plus, on va dire, avancer sur les sujets.
Modéliser, on peut dire, c'est un mot qui est toujours un peu fourre-tout, mais c'est dire, c'est
parce que le comment représenter ça joue, avec les pions.
Ouais, c'est ça. Comment ça se joue, c'est des cartes, on tire des cartes et on bouge des pions. C'est difficile de représenter un problème d'intégration multi-interface avec une carte. Enfin, on peut le faire, mais ça permet pas d'entrer vraiment dans les complexités du problème, ouais. Quand ça va vraiment avoir lieu.
Et c'est ça le logiciel. C'est ça le problème aussi, c'est que du coup sur un plateau, la Marine nationale fait pas mal de wargames, parce que c'est assez facile à représenter en fait, voilà, une carte du monde, des océans, des unités de surface, des sous-marins. L'armée de terre s'y met aussi, notamment avec des jeux qui sont développés à l'école de guerre terre et puis à l'école de guerre, mais par contre l'armée de l'air semble rencontrer un petit peu plus de problèmes pour justement représenter la troisième dimension, parce qu'en fait, sauf si vous le faites sur un ordinateur, mais dans ce cas-là, la dimension, on va dire, dire presque sensorielle en fait du jeu est un petit peu moins présente. Par ailleurs, on peut mentionner que faire
un jeu sur ordinateur, ça demande beaucoup plus de temps et d'argent et c'est beaucoup moins réactif que faire un jeu de plateau où il suffit de réimprimer une carte et on peut adapter.
Voilà, c'est ça. Et puis en plus, voilà, il faut installer le logiciel sur l'ordinateur. Ne parlons pas des réseaux du ministère des Armées, mais en tout cas, la dimension 3D est beaucoup plus difficile à mettre en place sur un wargame, ce qui fait que du coup, toutes les perspectives effectivement d'interopérabilité pour l'instant sont un peu compliquées à prendre en compte. Et sur le point notamment des États-Unis, donc qui se remettent un petit peu au wargame après la débâcle en Afghanistan, on a remarqué aussi qu'en France, pour tout ce qui est...
Je dirais pas que c'est un échec, je dirais non. Que ça n'a pas marché.
Pour tout ce qui est anticipation et prospective en France, on a remarqué qu'en fait, il y avait une série quand même... Alors, pas forcément d'échec de l'anticipation, mais c'est toujours un petit peu trop facile de les présenter comme ça. Mais en tout cas, une série de surprises stratégiques, peut-être, que ce soit les coups d'État au Mali, la guerre en Ukraine, mais aussi la crise du Covid, qu'on oublie parfois, en fait, dans les choses qui n'ont pas forcément été anticipées et qui ont, en fait, provoqué une prise de conscience et puis aussi une crise de conscience chez les décideurs, que ce soit politique ou militaire. Et notamment parce que, peut-être pour l'une des premières fois, ils ont été affichés publiquement sur ces failles d'anticipation, notamment sur la crise du Covid où vous avez des procédures judiciaires qui sont en cours. Et tout ce qui est le renouveau de l'anticipation et de la prospective en France, on peut le lier notamment à ces failles de prospective en fait, qui ont eu lieu dans les dernières années.
Et toujours pour continuer un peu dans ce parallèle, ou en tout cas pour voir ce qui se fait ailleurs, il y a un certain nombre d'organismes, alors je l'ai dit, mais il y a toujours plein d'organismes aux États-Unis pour à peu près tout faire. Non mais c'est intéressant parce qu'après la question c'est de savoir, une fois qu'ils font des choses, à quel point est-ce qu'on prend en compte ce qu'ils font, etc. Mais il y a plein de gens qui travaillent sur plein de choses, et notamment un organisme auquel vous vous intéressez, Paul, c'est l'IARPA, dont je n'avais absolument jamais entendu parler, mais effectivement ça vaut le détour. Ça vaut le coup d'y réfléchir un peu et d'en parler un peu. Donc, qu'est-ce que c'est exactement que cette IARPA aux États-Unis ?
Eh bien, c'est l'équivalent de la DARPA, donc qui est plus connue, donc qui est l'Agence d'innovation de la défense.
Qui est connue parce qu'on dit beaucoup qu'ils ont inventé Internet, ce qui est à moitié vrai, mais voilà. Oui.
Mais c'est l'équivalent, donc elle a été fondée à l'image de la DARPA au profit de la communauté américaine du renseignement. Et donc l'idée, enfin l'ambition, l'objectif de cette agence, c'est d'innover à la fois sur le plan technique, mais aussi sur le plan méthodologique pour les services de renseignement américains. C'est une agence qui fonctionne de manière très intéressante puisqu'elle ne mène pas directement les projets, les recherches, mais elle finance des projets. Donc il y a des appels à contributions, des appels à projets, un peu comme l'ANR. Comme les ANR. Et
les ANR, rappelons que c'est l'Agence nationale de la recherche qui finance des projets de recherche pour les universités. Quelque chose que les universitaires adorent parce qu'ils sont obligés de répondre, de faire des dossiers pour avoir des financements au lieu de les avoir directement par leurs universités. Mais n'empêche que c'est de plus en plus comme ça que ça fonctionne dans la recherche française. Et donc ça existe comme ça depuis longtemps aux États-Unis, évidemment.
Voilà, avec un degré de compétition un peu plus élevé, puisque donc au sein de l'IARPA,
il y a... Vous n'avez pas rempli des dossiers ANR, hein, parce que...
Si, j'en ai...
Si, c'est féroce, hein, quand même.
Non, mais là, c'est la compétition continue, même une fois que vous êtes lauréat. C'est-à-dire que l'IARPA finance chaque année un certain nombre de projets, et réévalue tous les projets tous les 6 mois. Et tous les 6 mois, il y a un projet qui est annulé. Donc le moins rentable. Donc c'est marche ou crève. Et donc
c'est vraiment des petits nègres, mais dans l'innovation, quoi.
Voilà. Et le credo de cette agence, c'est de mener des recherches à très haut risque, dans le sens où il y a un très grand nombre de recherches qui ne vont pas aboutir, mais à très haut rendement. Donc c'est vraiment l'idée. Et donc les appels à projets sont ouverts au moins à toute la communauté de recherche américaine, mais ça peut même aller au-delà. Et des universités, des centres de recherche peuvent proposer un projet. Et les travaux de l'IARPA ont donné lieu à tout un tas d'applications en matière de renseignement d'anticipation, disons. Par exemple, je donne juste un exemple comme ça, mais le projet Swarm, donc, qui est un projet qui s'inspire des travaux des entomologistes, et notamment de Thomas Seeley, qui est un spécialiste des abeilles, qui a étudié les mécanismes de prise de décision chez les abeilles, notamment lorsqu'elles doivent fonder une nouvelle colonie. Donc, vous savez, elles envoient des éclaireuses un peu dans toutes les directions. Et quand il y en a une qui trouve un lieu propice, elle revient et elle fait son évaluation du lieu. Donc, elle fait une petite danse, vous savez, où elle remue le bassin. Et elle donne ainsi la direction du lieu, la distance, et elle lui donne une note. Là, d'autres abeilles vont vérifier le lieu en question et reviennent et donnent leur estimation à leur tour du lieu. Et puis, il y a plusieurs lieux qui sont estimés en même temps. Et petit à petit, les lieux les moins bien notés sont éliminés. Et à la fin, il n'y en a plus qu'un qui reste et qui devient la nouvelle colonie. L'idée de l'ARPA, c'était d'appliquer ces mécanismes de prise de décision à l'analyse du renseignement classique ou d'anticipation. Comment ça se passe le renseignement, l'analyse de renseignement dans un service américain ou chez nous?
J'ai peur que vous orientiez vers la danse du bassin, je ne pense pas que voilà. Ça soit
ça. Il y a un analyste qui travaille sur un sujet auquel on demande de rédiger une note. Il rédige sa note, elle est transmise à son supérieur, qui en général connaît encore un peu le sujet. Pas toujours. Et ensuite, ça remonte la chaîne hiérarchique. Et là, il n'y a plus du tout de connaissance des dossiers. C'est la note en question est évaluée sur la base de son opportunité, des risques politiques qu'elle fait prendre au service s'il la diffuse, etc.
Ça n'a pas l'air une super méthode, ça.
Non, pas vraiment. Et là, l'idée, c'est de reproduire ça. Donc, ils ont fait une expérience avec la CIA. Et donc, ils ont créé une espèce de Google Doc multiple. Et donc plusieurs analystes sont chargés de rédiger la même note en même temps. Et ensuite, les pairs peuvent évaluer ces notes, dire même s'ils sont pas spécialistes du sujet, ils peuvent donner leur avis, dire voilà, c'est convaincant, là ça l'est moins, voilà, là on comprend pas le raisonnement, des choses comme ça. Et du coup, les notes les moins convaincantes sont écartées. À la fin, il en reste une. Donc déjà, il y a une évaluation par les pairs. En quelque sorte, de cette note. Et la note sélectionnée est consolidée par les meilleures idées des papiers qui n'ont pas été retenus. Et donc, on a une note qui remonte et qui est bien plus robuste que dans le schéma traditionnel. Voilà le type d'expérience que l'ARPA peut mener et qui donne des choses très intéressantes.
Alors, c'est très intéressant parce qu'on le dit un peu depuis le début, mais il y a un objectif qui est derrière, qui est de réfléchir, alors différemment possiblement, mais en tout cas de réfléchir mieux, et de contourner un certain nombre de biais, en fait, qui sont des biais... On avait parlé un peu, quand on avait fait une émission sur le retour sur la prospective de la guerre en Ukraine avec Yoann Michel et Florence Gault, mais ça vaut le coup d'entraîner, parce que je crois que ça avait intéressé pas mal de monde, et du coup, c'est intéressant de le détailler. Ces principaux biais que c'est les wargames, le red teaming, etc., mais aussi plein d'autres solutions, notamment les techniques d'analyse structurée, dont vous nous parlerez peut-être tout à l'heure, Paul. Mais peut-être commençons par détailler. Voilà, en gros, les biais cognitifs classiques, ceux qu'on essaie d'éviter, ceux qui sont bien cartographiés, comment est-ce qu'on pourrait baliser le champ et identifier les principaux? Je ne sais pas qui... Amélie Ferret ?
Nous, on a trouvé en fait plusieurs biais principaux, donc je pense qu'on peut toujours essayer de, à l'intérieur de ces grandes catégories, de spécifier. Mais il y a d'abord le biais de statu quo, qui est la tendance marquée à aborder négativement le changement et donc à préférer le conservatisme. C'est-à-dire qu'on va penser que une situation ne va pas changer, qu'elle va rester de ce côté-là, enfin dans un équilibre de force, voilà, qui vise à se maintenir et à persévérer dans son être. On a ensuite la pensée désidérative, ou plus connue sous le nom de wishful thinking, où là, qui est en fait un biais de croyance où vous allez écarter les faits qui rentrent en contradiction avec vos croyances et vous allez valoriser toutes les données qui, elles, vont renforcer vos croyances. Et donc, vous allez avoir une version, une analyse de la situation qui est tronquée.
Croyances ou, au demeurant, espoir. Enfin, y a aussi, on en parlait avec, dans cette émission à laquelle je faisais référence, mais il y a un truc de... il y a une tendance quand même à surévaluer la probabilité de ce qu'on voudrait voir se produire, d'une manière générale, ce qui est aussi le sens de wishful dans le wishful thinking. Quoi.
C'est ça. Ça dépend des types de personnalités. Vous avez des personnalités optimistes et des personnalités pessimistes. Mais effectivement, la tendance donc, à valoriser tout ce qui va dans le sens de vos aspirations.
En l'occurrence, pour le reprendre, c'était dans le cadre de la guerre en Ukraine, enfin en tout cas de cette montée en puissance, c'était cette idée qu'on n'a tellement pas envie qu'une guerre arrive qu'on a tendance à surévaluer les facteurs qui pourraient amener à garder justement le statu quo aussi d'ailleurs, mais en tout cas qui pourrait aller dans le sens inverse d'une invasion qui pourtant, bon, un an et demi plus tard, un peu sauté aux yeux quand même.
Oui, tout à fait. Ensuite, il y a le biais d'impact, où là, c'est l'idée que vous allez survaloriser donc, les scénarios qui ont des conséquences les plus structurantes. Et enfin, ça c'est le plus important, le biais de données. Où là, vous allez...
Attendez, c'est intéressant. Donc, le biais d'impact, les conséquences les plus structurantes, c'est-à-dire, dans une certaine mesure, c'est plus facile... Enfin, on a tendance à imaginer plutôt une révolution complète du système, parce que dans une certaine mesure, c'est plus facile à imaginer que de penser juste un ou deux petits détails qui changent, etc. Parce que du coup, il faut réintégrer plein de variables qui existent déjà. C'est la tentation de faire toujours table rase quand on anticipe quelque chose.
Oui, enfin, moi, je le considérais plutôt, mais là, je parle sous le contrôle d'Héloïse, par exemple, de consacrer beaucoup d'énergie à que faire si Poutine utilise l'arme nucléaire tactique. Donc, quelque chose qui n'a pas forcément beaucoup de probabilité d'arriver, mais qui a des conséquences extrêmement structurantes, plutôt que de penser comment il utilise son arme blindée ou quelle est la supériorité aérienne réelle des Russes.
C'est quelque chose qui a effectivement beaucoup moins de chances de se produire. Enfin, on l'espère, évidemment. Après, je ne pense pas qu'en interne...
Je rappelle que vous êtes spécialiste de dissuasion et prolifération, donc c'est important.
Voilà. Oui, donc, évidemment, là, je rassure tout le monde, la probabilité pour que ça arrive est extrêmement faible. Mais par contre, alors, en interne, je pense, de l'administration, c'est quelque chose qui est évidemment regardé avec, là aussi, beaucoup de distance, parce que ce sont des sachants qui, normalement, partagent cette opinion qu'il faut cette analyse, que ça a très peu de chances de se passer. Or, une fois que ça sort d'un cadre de personnes qui savent de quoi elles parlent, effectivement, une fois que ça se répand dans une communauté peut-être un peu plus politique ou même dans les médias, dans ce cas-là, effectivement, malheureusement, les médias vont généralement chercher l'hypothèse qui fait le plus de bruit, qui va avoir le plus d'impact sur... que ce soit nos sociétés, mais aussi la société russe en cas d'utilisation par Vladimir Poutine de l'arme nucléaire. Et c'est là qu'on peut retrouver effectivement un désir, on va dire, d'imaginer une hypothèse qui effectivement fait la plus de bruit possible, parce que c'est peut-être aussi ça qui va être le plus lu en interne. Et là, pour généralement, quand on écrit des notes de renseignement ou des notes de recherche, c'est celle qui, en fait, propose parfois la solution, alors soit la plus conservatrice, effectivement, via le bled de conservation, mais aussi celle qui a, on va dire, les idées peut-être un peu les plus novatrices, et puis celle qui va permettre, en fait, d'être brandie par le chef en disant « Ah, regardez, nous, on pense que ça va être comme ça, ou il faut se préparer à telle ou telle hypothèse. » Et ça, effectivement, on en parlait dans le processus de validation d'une note, mais il y a vraiment une dimension, à nouveau là, marketing et popularité d'une idée, d'une hypothèse qui est peut-être un petit peu trop importante. Et généralement, voilà, vous avez le supérieur hiérarchique, votre N+3, qui va demander en fait un certain papier pour pouvoir le présenter au chef.
Ouais, un papier qui fasse du bruit et qui donc retienne l'attention, quoi. Paul Charron ?
Je crois que ce qu'il faut rappeler sur la question des biais cognitifs, d'une manière générale, c'est que...
Alors juste, on va terminer parce qu'on en a oublié encore un qui était le biais de données. Non,
voilà, exactement. Donc le biais de données, c'est l'absence de la mise à jour d'un set de données ou d'un échantillon de données. Et là, c'est assez connu. Donc c'est la question du signe noir. Je crois que vous en aviez parlé aussi dans une précédente émission avec Florence Gaume. Et donc le signe noir, ça relate l'expérience ahurie des Occidentaux qui sont arrivés en Australie et qui ont découvert l'existence de signes noirs, ce qu'ils ne pouvaient pas imaginer eux, puisqu'ils ne connaissaient que des signes blancs. Et donc, c'est l'idée qu'on raisonne, on va avoir un échantillon de données et on va extrapoler à partir de cet échantillon pour avoir des vérités générales. Donc vous voyez que des signes blancs, vous pensez que les signes ne peuvent que être blancs. Et ça, ça renvoie à ce que disait Paul sur l'épistémologie, puisque un des problèmes de la connaissance scientifique, c'est que vous avez des preuves d'une vérité qui arrive que par le contraire. C'est-à-dire que la loi de la gravité, si votre stylo y tombe, elle est prouvée jusqu'à ce qu'un jour, si votre stylo ne tombe plus, ça ne prouve plus la loi de la gravité. Et donc ce biais du signe noir, donc c'est Nassim Taleb qui l'a théorisé dans un livre, et il est aussi très important pour tout ce qui est analyse stratégique, évidemment.
Paul Charron, donc, sur tous ces biais cognitifs.
Oui, en fait, il relève de ce que les cognitivistes appellent des heuristiques, qui sont en fait des raccourcis cognitifs. Et ils ont été mis au jour notamment par Daniel Kahneman et Amos Tversky. Et Kahneman, il faut le dire, c'est le seul non-économiste qui a eu le prix Nobel d'économie pour une branche de l'économie qui est l'économie comportementale.
Rappelons que le prix Nobel d'économie n'existe pas, mais c'est une autre question. C'est un prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel. Bref, c'est ma mesquinerie rituelle.
Très bien. Kahneman propose une modélisation en fait du fonctionnement du cerveau. Alors ça a été traduit en français sous le titre de système 1 et système 2. Donc il y a un système 1 qui est un système un peu intuitif, spontané, qui est capable de réagir très vite. Et puis le système 2 qui serait plus rationnel, mais très lent, très coûteux sur le plan énergétique. Et la plupart du temps, en fait, on vit sur le fonctionnement de notre système 1, parce que c'est ce qui nous permet de survivre et de faire tout ce qu'on fait dans la journée. Sinon, on passerait notre temps à calculer. Quand vous traversez la route, par exemple, vous voyez une voiture qui arrive, vous ne vous dites pas, elle est à 42 mètres, elle roule à tant de kilomètres heure, et j'ai moins 5 mètres à faire, est-ce que je fais un calcul rapide pour voir si j'ai le temps de passer? Non, personne ne fait ça. Tout le monde fait une estimation sur la base de l'expérience. Ça, c'est le système 1. Ce sont des heuristiques. Mais le problème pour nos analystes, pour nous-mêmes, chercheurs, c'est quand on résout un problème en faisant appel à notre système 1, alors qu'on devrait mobiliser le système 2. Et on n'en a pas toujours conscience. Et je crois que ce qui est très important là-dedans...
C'est le problème du coup de bol, quoi. Quand on a un coup de bol, on réfléchit pas toujours autant qu'on devrait. Quoi.
C'est ça. Ou quand on a du temps.
Mais l'un des enseignements, disons, de toutes ces recherches, c'est que la plupart du temps, pour surmonter un biais, il faut être à plusieurs. C'est-à-dire que c'est souvent l'autre qui va repérer le biais dont on est victime. D'où le fait que la plupart des méthodes dont on va parler, ou dont on parle aujourd'hui, dont on pourrait parler, sont des méthodes collectives, où on réfléchit à plusieurs. Et le fait de travailler à plusieurs, ça implique un autre critère, qui est celui de la transparence du raisonnement. C'est-à-dire que c'est très important dans les services de renseignement ou dans les armées, parce que c'est quelque chose de contre-nature, c'est-à-dire que les raisonnements, ils sont souvent très peu explicites. Or, si on veut vraiment les critiquer, les évaluer et éviter les biais, il faut les rendre transparents. Et ça, c'est un combat de tous les jours.
Et d'ailleurs, si je peux rebondir sur ça, en fait, l'apport de la méthode scientifique, que ce soit la méthode en sciences dures ou en sciences humaines, et normalement, c'est ça, c'est de rendre transparent son raisonnement de manière à pouvoir être critiqué. Et là, on retombe sur un des problèmes de l'institution militaire, qui est que c'est difficile, en fait, de légitimer la critique au sein d'une institution qui est extrêmement hiérarchisée, où votre avancement, il est basé sur la notation de vos supérieurs, et où, par ailleurs, il y a une forme d'homogénéité des formations, notamment chez les officiers, avec les écoles qu'on connaît, qui font qu'on n'a pas forcément des personnes qui viennent de différentes formations et qui, du coup, peuvent penser différemment parce qu'elles ont été acculturées, pour reprendre un terme militaire, de manière différente. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment eu cette prise de conscience chez l'armée américaine et qu'on peut aujourd'hui parler, moi, j'aime beaucoup le terme de révolution cognitive, mais on peut dire aussi que le ministère des Armées fait mai 68. Hein, c'est la même chose.
Je ne sais pas laquelle des deux expressions va le plus perdre les auditeurs, mais c'est intéressant.
C'est ça, c'est qu'il y a cette volonté, cette prise de conscience de changer un petit peu sa manière de fonctionner, de permettre permettre justement qu'il y ait une critique et de permettre que la décision, elle soit collective et qu'elle soit fondée donc sur cette épistémologie qui pense que en confrontant les points de vue, on peut plus arriver vers la vérité. Une épistémologie qui par ailleurs peut être aussi critiquée, mais bon, c'est pas le sujet. Et simplement, ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que quand est-ce que le ministère des Armées a commencé cette transformation, c'est en 2017, quand il y a eu la volonté de transformer le ministère pour faire la transition numérique. Et en fait, à partir, c'est là où on voit, moi je trouve ça extrêmement passionnant, l'intrication en fait des technologies qui vont permettre d'agréger des opinions individuelles de manière beaucoup plus importante, de refonder les prises de décision et donc c'est tout ce qui est théorisation de l'épistémologie. C'est que donc quand le ministère s'est dit ok, on va faire notre transition numérique, on va essayer de repenser nos process et donc on va prendre des technologies, mais on va aussi prendre d'autres manières de faire, notamment des manières de faire issues du monde civil et issues de la culture start-up. Donc on a vraiment cette volonté d'ouverture en fait du ministère à d'autres manières de penser et à d'autres process. Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, 'cause the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. From senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing.
Et justement, donc, comment est-ce que ça marche? Donc, là, vous nous avez donné une sorte de point de départ. Depuis, où est-ce que c'est allé? Dans quelle mesure? Alors, on l'a dit, mais donc le général Burkhardt, qui à l'époque était chef d'état-major de l'armée de terre, je pense, et puis maintenant il est devenu grand chef, donc ça doit d'autant plus infuser à l'échelle de toutes les armées. Enfin bon, cela étant, c'est pas parce que... Enfin, je veux dire, les armées, c'est aussi un corps qui a une certaine inertie, et puis comme tout le monde, mais voilà, on peut pas s'attendre aussi à ce que des gens se mettent d'un coup à faire des wargames si quand ils sont en milieu ou en fin de carrière. Donc voilà, comment est-ce que ça a été implémenté? Comment est-ce que ça a été structuré aussi? Parce que c'est toujours très important. Enfin, on a commencé à le dire, mais voilà, sans moyens, sans effectifs, sans structure, on va moins loin quand même. Et accessoirement, auprès de qui ça prend? C'est aussi une autre question. Je sais pas, Héloïse Feuillet.
Oui, alors ça dépend des formats. On va peut-être commencer par la Reptine Défense dont on a brièvement parlé tout à l'heure. Donc les écrivains de science-fiction qui sont réunis tous ensemble pour donc réfléchir à des scénarios de rupture avec l'aide d'une Blue Team, donc là, qui sont en fait des officiers du ministère des Armées qui vont permettre de cadrer un petit peu les travaux et puis de fournir éventuellement des données confidentielles à ces écrivains afin de confronter en fait quand même, d'essayer de mettre dans un cadre des possibles ces scénarios.
C'est quoi, c'est la web?
Il y a des civils aussi.
Ah, il y a des civils, pardon. et donc cette Red Team Défense, donc c'était un contrat donc de 3 ans avec l'Université Paris Sciences et Lettres qui se termine à l'été 2023. Et donc la question est de savoir est-ce que ça va être renouvelé, sous quelle forme. Mais on peut faire un premier bilan tout de même de cette Red Team Défense. En montrant que, à notre sens, la conclusion qu'on en a tirée avec Amélie Ferret, c'est que l'objectif effectivement d'ouverture du ministère et en fait l'objectif peut-être un petit peu marketing de la Red Team Défense a fonctionné. Il y a eu une couverture médiatique assez phénoménale de cette initiative.
Invraisemblable. Invraisemblable, surtout rapporté à ce qu'on a pu en dire. C'est-à-dire, on en parlait avant que ça existe, on en a parlé quand ça a été créé, on en parle maintenant qu'ils ont rendu des trucs. Alors, enfin bon, on pourrait reparler de ce qu'ils ont rendu ou pas, mais en tout cas, ce qui est public, bon, on peut pas dire que ça ait forcément révolutionné la pensée stratégique. Enfin, ça n'est qu'un avis très personnel, mais on sait qu'il y a des choses aussi qui sont restées classifiées, etc. Mais pourtant, on n'a parlé que de ça depuis 3, 4, 5 ans. Ce qui montre un besoin, sans doute, social de s'emparer de ces trucs-là, ce qui montre aussi l'attrait de cet imaginaire. Mais en tout cas, faut dire que si c'était un coup de com', enfin, si c'était une dimension du truc, c'était de faire un coup de com', c'était la plus grande réussite de ces dernières années pour les armées.
Voilà, donc effectivement, peut-être que la DICOD et d'autres organismes de communication des armées peuvent s'en inspirer, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a très très bien fonctionné sur le plan d'ouverture du ministère, avec également les livres, enfin les scénarios sous forme de livres qui se sont très bien vendus. Et donc cet objectif d'ouverture, selon nous, a été rempli, mais comme vous le disiez, le contenu en lui-même et les scénarios ne sont pas forcément, alors ceux auxquels on a eu accès, parce qu'on n'a pas eu accès aux scénarios confidentiels, mais ne sont peut-être pas aussi disruptifs qu'on l'imaginait. Et surtout, ce qu'on identifie et ce qu'on nous ont dit, en fait, nos interlocuteurs au ministère des Armées qui n'ont pas forcément été associés à cette démarche, c'est qu'il manque une étape, c'est-à-dire entre la situation, disons, actuelle et puis l'horizon 2040-2050 pour que les armées réussissent à s'approprier les scénarios et arrivent à créer une sorte de scénario intermédiaire, notamment sur le plan, en fait, de la prospective capacitaire, la prospective technologique, comment l'AID, comment la DGA, comment les bureaux plan-programme des états-majors peuvent s'approprier les scénarios pour imaginer les décisions à prendre aujourd'hui pour l'horizon 2030 afin d'être prêt en 2040 à potentiellement faire face aux scénarios qui sont décrits dans la Red Team Défense.
Donc pour l'incarner, quoi, c'est sympa de prévoir un ascenseur spatial à Kourou, mais ça dit pas grand-chose de ce qu'il faut faire aujourd'hui, demain ni après-demain pour se préparer éventuellement aux nouveaux enjeux du spatial, quoi.
Effectivement, et c'était pas la mission en soi de la Red Team Défense que d'imaginer justement les étapes qui étaient nécessaires entre maintenant et 2040, 2050, voire 2060. Mais c'est certain qu'il y a maintenant un travail de réappropriation, enfin, d'appropriation tout court par les bureaux du ministère qui n'ont pas participé à la Red Team Défense, donc qui n'étaient pas dans la Blue Team, pour que cette démarche ait un impact durable pour les armées et que ça ne soit pas en fait qu'un coup de com' ou qu'une volonté d'ouverture. Et puis on voit aussi, tout à fait prosaïquement, que les séances de restitution de la Red Team étaient parfois extrêmement longues, pouvaient durer 3 à 4 heures, donc celles ouvertes aux agents du ministère des Armées, et qu'un agent de la DGRIS qui a 4 notes à rendre dans 2 semaines n'avait pas forcément le temps en fait, d'aller à la restitution, et ni même son chef, ce qui pouvait parfois poser problème justement pour cette appropriation en fait, des scénarios par le ministère des Armées.
La DGRIS, c'est la Direction Générale pour Relations Internationales et la Stratégie, qui est une des directions du ministère des Armées. Donc ça, c'est l'ASF. Ensuite, qui joue ? Qui fait des wargames ?
Alors, pour le côté, donc toute la dimension wargame, on a vu l'année dernière la nomination d'un référent wargame au CICDE, donc le Centre Interarmé de Concept, Doctrine et d'Expérimentation, qui est également situé à l'école militaire.
Très soulagé, parce que je ne l'aurais pas eu, celui-là. Je suis très soulagé que vous l'ayez sorti tout seul, j'aurais galéré.
Donc, qui était passé par l'OTAN, et donc on en a parlé d'ailleurs, que l'OTAN fait là aussi sa révolution wargame. Alors, à ma connaissance, il a quitté son poste, mais on peut espérer qu'il soit très bientôt remplacé. Et puis, donc, des wargames qui commencent aussi à être conçus sous forme de consultance pour les centres de réflexion des armées. Donc, par exemple, le centre d'études stratégiques de la marine a son propre wargame sur l'océan Indien, qui a été créé par un think tank, donc la Fondation méditerranéenne des études stratégiques. Vous avez le CESA.
Ça, juste, je vais le dire, mais on peut le préciser, parce que c'est Pierre Razou qui était ici pendant longtemps. Et c'est le premier qui est venu parler de wargame à ce micro. Il faisait des wargames, enfin, il en fait toujours d'ailleurs, il en commercialisait. Commercialise toujours. Il est parti à la FMES, mais ça garde une synergie avec tout ça, ce qui est super parce que on peut le dire, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas énormément de gens qui sont capables de produire des wargames, donc c'est chouette de réussir à capitaliser là-dessus, quoi.
Oui, et surtout en étant aussi proche en fait du ministère qui permet d'avoir des produits en fait qui correspondent aux demandes des armées, et pour avoir moi-même joué à son wargame à l'indien, effectivement ça c'est très fidèle à la réalité et assez utile. Et comme on le disait, donc le CESA, donc pour l'armée de l'air, et le CDEC essayent aussi de développer une activité wargame. Donc ça commence à être le cas pour l'armée de terre, et puis l'armée de l'air, on en a parlé, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a cette dimension en fait de spatialisation. Donc la dimension 3D qui est un peu complexe à mettre en place.
C'est terrible parce que du coup j'imagine des aviateurs avec des petites figurines d'avion dans la main qui font... Ça
peut se faire en prenant une sorte de paille ou de très gros cure-dents. En fait, vous pouvez simuler les avions à des différentes hauteurs en fait, dans des différentes altitudes. Donc c'est ça peut se faire.
Voilà, ça a l'air super.
Voilà, c'est vraiment le système D. Et donc effectivement, cette culture wargame commence quand même à infuser. Même si on voit encore que, notamment dans l'armée de terre, ce sont des wargames qui restent très tactiques. Au niveau, disons, tactico-opératif, avec par exemple le wargame Logops, qui a été développé École de guerre terre, donc qui a été développé en interne et qui, là, en fait, c'est plutôt voilà, du tactico-opératif. Et après, vous avez la dimension plus large donc de Serious Games, dont on parlait au début, et qui n'est pas forcément en fait l'incarnation d'une équipe bleue et d'une équipe rouge, disons, ou de l'incarnation de différents acteurs, mais l'appropriation par là aussi des moyens ludiques, des problématiques assez complexes. Et là, je pense notamment à un Serious Game qui s'appelle Strategicon et qui permet de s'approprier différents mécanismes de la LPM. Donc la loi de programmation militaire. Donc c'est un serious game qui est développé par Pitarec, qui est l'une des rares entreprises en France à faire des wargames, et qui est là aussi proposé aux officiers de l'école de guerre pour les préparer à leurs futures fonctions dans les états-majors, et qui leur permet de comprendre toute la complexité d'une conception de la loi de programmation militaire, et qui peut-être aussi a été jouée par des parlementaires. C'est aussi une cible, en fait, des wargames.
C'est génial. C'est bien beau de râler contre la LPM, mais essayez, vous allez voir que c'est pas si facile.
Et ça sert effectivement toute cette dynamique d'acculturation dont on parlait, afin de préparer en fait, des officiers à évoluer dans un cadre civilo-militaire et puis interarmé. Les wargames peuvent servir aussi à ça. Puis il y a une fonction influence aussi évidemment du wargame pour faire comprendre les problématiques de l'Indo-Pacifique à un député qui n'y connaît rien. Vous le faites jouer 4 heures la marine indienne, généralement il va se rendre compte un petit peu plus facilement qu'en lisant en fait une note.
Alors, mais aussi accessoirement, qui le fait ? C'est-à-dire, c'est qui participe ? Alors on imagine bien que c'est plus ou moins obligatoire selon les endroits et selon les publics, mais enfin, c'est tout bête, mais est-ce qu'il y a une question de génération ? Est-ce que c'est les jeunes qui s'y mettent ? Est-ce que tout le monde est un peu susceptible ? Ah, voilà. Comment est-ce que c'est intégré ? Comment est-ce que c'est approprié différemment selon les publics et selon
alors les pour les wargames spécifiquement, ça me semble plutôt approprié dans des moments de formation, donc école de guerre terre, ensuite école de guerre et Orchem, enfin le collège des hautes études militaires, je ne sais pas s'ils font des wargames mais probablement, et ensuite que ce soit aussi les brain games dont on parlait au début ou la Red Team Défense, ça reste quand même des problématiques plutôt d'état-major, voire spécifiquement de bureau plan programme, parce que ce sont eux en fait qui vont faire un petit peu d'anticipation, un petit peu de prospective, et donc qui ont besoin de s'approprier certains sujets. Et après, au CDEC, on voit aussi, par exemple, une filière de prospectivistes. Alors, enfin, quand on dit filière, en fait, c'est moins d'une dizaine de personnes, mais quand même, l'émergence, en fait, d'une filière de prospective dans les armées qui, là aussi, conduisent, en fait, ces wargames. Ils jouent, mais pour l'instant, à notre connaissance, ça reste quelque chose d'assez restreint et d'un public, on va dire, déjà intéressé par le sujet, même s'il suffirait en fait d'un petit peu plus de temps, un petit peu plus de démocratisation du plateau de jeu pour que d'autres populations s'y mettent. Je crois que tu voulais...
Simplement pour compléter, je pense que ça dépend aussi des formats des wargames, parce que Héloïse a parlé des formats plateaux, mais il y a aussi des formats modélisés qui se rapprochent du jeu vidéo, où là on peut toucher un public plus jeune. Et l'autre point qui me paraît important de souligner, pour compléter ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi un engouement pour les wargames à l'extérieur du ministère des Armées, qu'on voit beaucoup dans les think tanks et dans les instituts de recherche. Et ça, c'est exactement comme ce que tu as dit, Héloïse, pour, par exemple, pour les parlementaires. C'est vraiment pour prendre pour mieux appréhender des logiques de pensée et la complexité, donc pour produire une recherche qui est plus efficace, plus opérationnelle, mais aussi, on voit cette problématique dans la question des rendus. Parce que quand vous faites une recherche comme celle qu'on a faite avec Héloïse, on passe pas mal de temps à faire des entretiens, à l'écrire, mais alors après, il faut qu'elle soit lue. Et on sait qu'il y a une forme d'accélération du tempo politique et intellectuel qui va de pair avec une prolifération des écrits. Donc vous avez des gens qui ont de moins en moins de temps et qui ont de plus en plus d'informations. Et donc, il y a une problématique forcément de comment s'approprier les informations et comment être entendu. Et donc, les wargames, c'est aussi une manière pour des instituts, des think tanks, mais pas que en France, hein, des think tanks anglo-saxons, pour être entendu et pour faire valoir leur analyse stratégique. C'est pour ça qu'on voit que tous les formats dont on parle dans le briefing, c'est pour moi, c'est vraiment important dans la manière de penser la stratégie. C'est vraiment une manière nouvelle, différente et qui est en train de se généraliser sur comment on pense la stratégie. Enfin, nouvelle, il y a des wargames depuis le milieu du 19e siècle, hein, bien sûr, donc la nouveauté est à relativiser.
Mais c'est intéressant parce que après, ça pose encore une fois la question des moyens, de qui prend ça en charge. Et aussi de l'intégration, parce que c'est sympa de faire jouer des gens, mais en fait, quand on lit notamment un peu la littérature américaine sur le wargame, il ne faut pas s'arrêter au moment du jeu. Ensuite, il faut faire des restitutions, ensuite il faut faire des analyses, ensuite il faut faire des synthèses, il faut faire des partages d'expériences, etc., etc. Et ça, c'est tout bête, mais ça prend du temps, ça demande des moyens, ça demande des effectifs. Alors, c'est sympa quand aux États-Unis, ils ont un centre, et même beaucoup qui sont entièrement dévoués à ça, mais quand c'est, ce que vous indiquiez un peu tout à l'heure, de quelqu'un qui prend sur son après-midi et du boulot qu'il va avoir à rattraper le soir pour le faire, bon, il manque des échelons en aval pour que la pratique, disons, soit vraiment efficace. Et donc ça, enfin, je veux dire, il y a le côté les gens qui sont plus ou moins motivés, mais au-delà de ça, il y a une question structurelle. Donc, la question, en fait, c'est comment est-ce que ça se structure ? Est-ce qu'il y a des services ? Est-ce qu'il y a des organismes au sein des armées ou ça qui pourraient fédérer ? Parce qu'en en fait, à partir du moment où il y a un organisme, il peut y avoir des moyens, il peut y avoir des dispositifs. Tant que c'est éclaté, bon, c'est bien, c'est un début d'acculturation. Mais pour que ça prenne vraiment et que les moyens fonctionnent, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de dégager des moyens.
Alors, pour l'instant, ça ne me semble pas vraiment institutionnalisé ni même structuré, même si donc il y a une piste dont on a parlé, ce sont donc ces centres de réflexion dans chaque armée, donc le CDEC pour l'armée de terre, le CESA pour l'armée de l'air et le CESM pour la marine, qui ont vocation un peu à être les think tanks de chaque armée. Et ça me semble être une piste intéressante pour faire justement tout ce processus en fait de wargames, notamment parce que, alors là je parle du CEC, je sais pas si les autres think tank d'armée ont cette dimension, c'est qu'ils sont habitués notamment au RETEX. Et on remarque en fait que si on considère un petit peu le wargame comme une opération, on peut se dire que c'est justement les démarches habituelles du RETEX pourraient être appliquées aux wargames, notamment pour se dire bon, là on n'a pas eu la même issue, enfin la même fin que quand on a joué le wargame il y a 2 semaines avec des populations différentes. Donc pourquoi, qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour arriver au même résultat? Et on retrouve à mon avis des dimensions, enfin même des processus cognitifs qui sont assez similaires, et ça pourrait être notamment voilà une démarche un petit peu de rayonnement aussi de ces centres de réflexion, et puis leur posture un petit peu déjà hors de Ballard, enfin hors du centre du ministère des Armées, donc qui est dans le sud de Paris, et puis un petit peu voilà excentré, avec peut-être une relation avec le monde civil qui est un petit peu plus facilitée que des bureaux plan programme ou des services de renseignement. À mon avis, ça semble être des institutions qui sont les plus aptes à diriger en fait cette filière wargames sous du coup le patronage d'un référent wargame au CICDE qui existe. Et puis après, pourquoi pas penser aussi une sorte de contractualisation des wargames au travers de consultances donc qui peuvent être gérées donc par la DGRIS, voire d'études prospectives et stratégiques, donc là aussi dans le cadre du programme 144 de la DGRIS, et puis essayer de faire émerger en fait une filière wargame en France avec donc un partenariat public-privé et puis une dimension un peu rétex et analyse des wargames pour qu'ensuite on puisse s'en servir comme outil d'influence auprès de nos partenaires et puis comme font les Américains avec leur wargame sur Taïwan.
On était très cuisine interne du ministère des Armées, mais c'est important parce que c'est pour ceux qui savent de quoi on parle, ils verront très bien que c'est par ce genre de levier que ça passe. Ouais. Amélie Ferret ?
Moi je dirais aussi qu'il y a, parce que là on a beaucoup parlé de wargame, mais il ne faut pas quand même perdre de vue l'objectif qui est donc de populariser ces nouveaux outils cognitifs. Et pas simplement à l'intérieur du MINARM, comme j'ai dit, mais pour toute la communauté de recherche française. Et là, donc, on émet quelques recommandations à l'intérieur du briefing, notamment, donc, tu l'as dit pour le Wargame, Héloïse, mais je pense qu'on peut le généraliser, et je pense que Paul aura aussi des éléments dessus, sur la professionnalisation d'une filière prospective. Parce que, et ça, c'est... Alors moi, ce que j'adore, c'est la cuisine interne des universités, pas du MINARM, mais au sein de l'université. Par exemple, il n'y a pas de discipline en fait, prospective, future studies, ça n'existe pas. D'ailleurs, la stratégie non plus, ça n'existe pas. Donc, en France, évidemment. Donc, le problème, c'est comment on fait pour former des gens qui aient ces compétences-là et qui connaissent justement la psychologie cognitive, qui savent faire de l'analyse structurée, qui savent réfléchir aux mécanismes de décision et aussi aux rétex, comment faire des feedbacks, comment faire des rétex qui soient percutants. Donc comment on les forme, comment on pérennise sur les compétences acquises par les officiers au sein du MINARM, parce qu'on sait qu'on a une rotation de 2 à 3 ans, donc vous formez quelqu'un à ces outils-là, puis 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard, il part faire complètement autre chose. Et donc là, il y a une perte de compétences. Donc du coup, tout repose en fait sur une appétence individuelle. Et donc ça, c'est un problème. Bon, ça peut être, pallié en utilisant des civils, mais il faut quand même réfléchir à ça.
Et c'est intéressant parce que c'est un problème qui est au cœur des armées. Oui, effectivement, il faut gérer le fait que les gens partent parce qu'ils font d'autres choses. Mais en même temps, si c'est toujours les mêmes personnes qui font le même truc, ça devient un précaré. Et du coup, ça pose aussi d'autres problèmes. Enfin, c'est un problème qui ne s'applique pas qu'aux armées, mais c'est une vraie question de comment est-ce qu'on a des savoirs qui se transmettent sans départition, avec accumulation, mais sans pour autant que ce soit... pour que ça reste ouvert et que ça SM quand même, quoi.
Oui. Mais après, ça, c'est toutes les problématiques RH. Hein, il y a des gens qui réfléchissent à ça et je pense qu'il doit y avoir des solutions. Et l'autre point important... C'est l'utilisation des technologies. Et parce que là, on a parlé de wargame, mais moi, je pense qu'il y a une forme de porosité, et ça, peut-être qu'Héloïse, on devra écrire ensuite dans une autre étude, entre wargame et exercice, en fait, aujourd'hui. Exercice militaire, je veux dire. Parce que ça coûte quand même très cher, surtout quand on pense à la haute intensité, de déployer une division, voire plus, sur un terrain. Et donc, il y a nécessairement l'utilisation justement de ces jeux vidéo, des technologies informatiques, avec des scénarisations pour entraîner les officiers. Donc, je sais que dans l'école de Guerre-Terre, il y a un exercice qui s'appelle Cerastes, qui vise à ça, qui est fait donc, à Saumur. Il y a tout un centre avec des ordinateurs qui permettent de modéliser le niveau division. À Warfighter aussi, donc il y a un exercice qui est fait avec les Américains. Il y a une modélisation, et je pense qu'à Orion, donc le grand exercice des armées qui a lieu en ce moment même, je crois, il y a aussi une utilisation des logiciels. Donc voilà, je pense que là, on peut vraiment faire travailler tout ce qui est réalité virtuelle, intelligence artificielle, sciences de l'informatique, je ne suis pas ingénieur, mais voilà, et des cognitivistes et des officiers pour mettre ensemble ces savoirs et pour pouvoir professionnaliser ou seriousiser, si on prend le serious game, ces savoirs-là.
Paul Charron, sur cette préoccupation donc de qui fait de la prospective en France, comment est-ce qu'on les forme, comment est-ce qu'on les recrute, comment est-ce qu'on les fait être entendus. Voilà, comment est-ce qu'on arrive ou on se dirige vers peut-être une filière qui pourrait apparaître ?
J'en vois pas pour l'instant, et c'est bien le problème. Il y a effectivement des gens qui sont très intéressés par la question de la prospective et qui en font à droite à gauche. Donc il y a une dissémination qui est pas forcément négative, mais à un moment il faut bien sûr rationaliser un petit peu tout ça. Pas forcément. Je suis pas sûr que la création d'une agence qui serait dédiée à la prospective sur la bonne solution. Je pense qu'il faut en faire dans différents lieux. Mais par contre, il faut professionnaliser. Ce que disait Amélie tout à l'heure. Et quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est un peu ça qui a eu lieu. Alors moi, je regarde plus ce qui se fait du côté des services de renseignement que du côté de l'armée. Mais dans les années 2000, ils ont professionnalisé. La CIA a créé une nouvelle fonction qui est celle de facilitateur. Un facilitateur, c'est un spécialiste des techniques d'analyse structurée. C'est un analyste.
Alors, les techniques d'analyse structurée, on en a un petit peu parlé par la bande tout à l'heure, mais ouais. Pas vraiment. Donc, expliquez-nous ce que c'est.
Ok, rapidement, c'est un.
Ouais, pas rapidement ou pas rapidement.
Non, pas rapidement alors. Non, les techniques d'analyse structurée.
Ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà parlé de la préoccupation, oui. Que c'était tout à l'heure, de contourner les biais cognitifs en raisonnant à plusieurs et selon des méthodologies propres.
Voilà. Bah, disons que les techniques d'analyse structurée sont c'est un catalogue de méthodes utilisées par les services de renseignement et notamment la CIA et qui visent justement à surmonter ces biais. Alors, ça peut être des biais cognitifs, mais des biais bureaucratiques aussi, hein, tout simplement. C'est-à-dire comment on fait en sorte d'être capable de produire une note qui va à l'encontre de ce que pense le chef. Voilà, ce genre de choses. Et ce qui est intéressant dans la naissance des
comment on fait ?
On en parlera après. Dans la naissance des techniques d'analyse structurée, déjà elles sont très anciennes, puisque ça date des années 60. Enfin, en tout cas, l'origine se trouve dans les années 60, et ça part du contre-espionnage en fait. C'est dans le cadre de l'affaire Nosenko. Donc Nosenko, c'était Yuri Nosenko, c'était un colonel du KGB qui a fait défection aux États-Unis en 1964. Et le drame, c'est qu'il est accueilli aux États-Unis, mais il n'est pas vraiment cru. Et qu'on est dans une époque, voilà, un peu la CIA est un peu hystérique. Donc il vient d'avoir le cas Kim Philby, James Angleton qui dirige le contre-espionnage s'est senti trahi parce qu'il connaissait Philby. Voilà, il en était assez proche et ils sont persuadés qu'il y a...
C'est un pur paranoïaque dans l'absolu.
En plus. Donc il était persuadé qu'il y avait un master plot donc, au sein de la CIA et d'autres services de renseignement avec des tops soviétiques un peu partout jusqu'à très haut niveau. Et 6 mois avant la défection de Nosenko, Golitsyn avait fait des défections via la Suède, la Finlande. Et Golitsyn explique à Angleton et à la CIA que le département D, qui a été créé en 1959 au sein du KGB, D pour Disinformatia, donc désinformation, a notamment pour tâche de discréditer les transfuges. Et donc il dit attention, dans les mois à venir, il n'est pas impossible que le KGB monte une opération contre moi. Voilà. Et Nosenko arrive 6 mois plus tard et la CIA pense que c'est en fait un agent double et qu'il est là pour intoxiquer la CIA. Et donc ils ne vont pas vraiment le croire. Et il va falloir 10 ans pour qu'il soit réhabilité, puisqu'il était, c'était un vrai transfuge. Et tout le renseignement qu'il a transmis n'a pas été exploité par la CIA. Et à partir de ce cas, il y a un analyste de la CIA qui s'appelle Richard Ewer qui a décidé d'identifier les biais qui ont conduit aux erreurs d'analyse. Parce qu'il y a eu de multiples rapports. Je crois qu'il y a eu 7 rapports en tout sur le cas Nosenko. Et c'est à partir de là, donc il a identifié des biais dont on a déjà parlé, hein, biais de confirmation, biais d'intentionnalité, etc., qui ont conduit finalement à négliger le renseignement, à faire des erreurs de raisonnement. Et lui, il a essayé ensuite de construire des méthodes qui permettent de contourner ou de surmonter ces biais. Et ces méthodes, c'est les techniques d'analyse structurée. Elles vont émerger progressivement dans les années 80-90, mais elles vont s'imposer finalement après le 11 septembre, en 2004, avec la réforme de la formation des analyses de la CIA. Et là, c'est là qu'on crée la fonction de facilitateur. Donc non seulement on forme les analyses de la CIA aux techniques d'analyse structurée, mais on crée une fonction de facilitateur qui est un analyste expérimenté et qui devient un expert de ces méthodes. Et concrètement, comment ça fonctionne? Quand un groupe d'analystes est confronté à une difficulté, l'avenir du Soudan, la Syrie, est-ce que la Chine va envahir Taïwan, des choses comme ça.
Ça n'a pas l'air très difficile.
Eh bien, le facilitateur apporte une méthode. Voilà. Par exemple, au lieu de... Réfléchissons à la question de Taïwan, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Au lieu de se demander est-ce que les Chinois vont envahir Taïwan, eh ben, le facilitateur pourrait proposer un pré-mortem. Donc un pré-mortem, c'est une méthode qui consiste à considérer qu'on arrête de se demander si les Chinois vont envahir. On dit voilà, on est en 2027 par exemple. Taïwan vient d'être envahi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, et on remonte la chaîne causale. Voilà, c'est des méthodes qui sont très simples. Et c'est intéressant parce que ça permet de réfléchir aussi à la question de la technologie. La plupart des méthodes qui sont proposées, enfin qui se développent au sein des services de renseignement américains, alors bien sûr, il y a toute la partie big data, intelligence artificielle, etc. Mais à côté de ça, il y a tout un tas de méthodes qui sont très artisanales, en fait, et qui reposent juste sur un groupe d'analystes et leur cerveau. Et donc, c'est intéressant qu'il y ait ces deux tendances à la fois. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle n'écrase pas complètement les méthodes beaucoup plus artisanales. Et donc, il y a tout un tas de méthodes. On en compte au moins 40 ou 50, mais disons qu'il y en a une vingtaine qui sont utilisées de manière assez, assez fréquente. Des méthodes, on compte trois grandes catégories. Des méthodes dites diagnostiques, qui aide à poser un diagnostic, à confirmer en quelque sorte qu'on va dans la bonne direction. Des méthodes dites contrariantes, typiquement l'avocat du diable, hein, qui fait partie de ces techniques d'analyse structurée. Et puis les méthodes dites imaginatives, donc, qui sont là plutôt orientées vers le renseignement d'anticipation, telles que la génération de scénarios multiples, par exemple. Voilà, qui permettent d'identifier les futurs possibles.
Mais c'est intéressant, parce que d'un point de vue organisationnel, cette idée du facilitateur, c'est l'idée qu'il ne va pas y avoir quelqu'un qui est seul chargé, ou un service, c'est ou ça. Un organisme, de réfléchir à tout ce qui va se passer. C'est par contre, il va y avoir des gens qui ont une boîte à outils, qui peuvent prêter aux services intéressés directement, qui peuvent en avoir besoin.
Alors là, c'est des facilitateurs internes à la CIA, donc ils travaillent uniquement pour la CIA, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des exercices inter-agences. Et de toute façon, ces méthodes aujourd'hui se diffusent non seulement dans l'ensemble des agences, enfin l'ensemble de la communauté américaine, mais aussi à l'étranger. Il y a de plus en plus de services américains qui les utilisent, les Israéliens le font beaucoup aussi, et on le voit même ailleurs.
Mais c'est ça, pas que à l'intérieur donc de soit des services, soit des armées, mais on voit aussi que à l'intérieur des entreprises privées, tout l'apport en fait du design, de l'innovation des études de design, parce qu'aujourd'hui il y a toute une structuration des études de design, dont le design de la prise de décision. Et ben les entreprises, elles vont pour résoudre des problèmes de management ou alors pour faire de la stratégie d'entreprise, justement faire appel à des personnes qui sont spécifiquement chargées d'avoir cette boîte à outils pour organiser la discussion et pour faire advenir soit une stratégie, soit pour résoudre des conflits à l'intérieur de l'entreprise. Donc je trouve ça très intéressant, Paul, ce que tu dis, parce que ça montre que ça infuse différentes branches de la société et qu'il y a en fait aujourd'hui une démocratisation de ces techniques.
Tout à fait. Et ça va de pair, d'ailleurs, avec le développement de ce qu'on appelle le crowd intelligence, donc qui est le fait de faire à la fois du recueil, mais surtout de l'analyse, sur la base de ce qu'on pourrait appeler la sagesse des foules, donc, et qui peut prendre différentes formes. Par exemple, l'entreprise russe bien connue Kaspersky a créé un site internet qui s'appelle Earth 2050, donc qui propose de penser le monde à l'horizon 2050, et c'est tout à fait du crowd intelligence. Donc tout le monde peut se connecter, créer un compte, et à l'endroit où il se trouve sur la planète, dire « bon ben voilà, ou... » Moi, je pense qu'autour à l'horizon de telle année, il va se passer tel endroit. Et donc, si vous allez sur le site, vous pouvez tourner autour de la planète et identifier des événements, les prédictions qui sont proposées par des utilisateurs, etc. Alors, il y a beaucoup de choses farfelues, mais c'est juste un exemple de ce qu'on peut faire Alors on peut le structurer, on peut l'organiser pour que ce soit plus efficace. C'est ce que font en quelque sorte aussi les marchés prédictifs. Mais
les marchés prédictifs, il faut rappeler ce que c'est. On en avait parlé dans un épisode avec Florence Gault, mais globalement, c'est un truc très étrange, mais ça marche.
Mais ça marche. C'est avec certaines limites, mais ça marche.
C'est l'idée que, en fait, pour plein de problèmes complexes, je sais pas la Chine, Taïwan, mais plutôt dans le passé, en gros, vous pouvez interroger des experts et vous pouvez aussi interroger des gens qui n'y connaissent rien, mais beaucoup. Et en fait, si on regarde, souvent, les gens qui n'y connaissent rien, quand il y a des méthodes hein, pour les faire voter, etc., mais ils ont un taux de prévision, pour le coup, oui, plutôt plus élevé que celui des experts.
En fait, c'est une logique statistique. Et ça vient des travaux d'un statisticien du début du XXe siècle, qui s'appelle James Galton, si je me souviens bien, ou Francis Galton, et qui a eu cette intuition dans une foire rurale. Où en fait il a assisté à un concours donc où les villageois les participants à cette foire pouvaient contre une petite participation financière estimer le poids d'un bœuf ou le nombre de kilos de viande qu'on allait extraire du bœuf et donc ils notaient leur estimation sur un petit bout de papier et celui qui arrivait le plus proche du poids réel gagnait le prix. Et Galton a récupéré l'ensemble des estimations. Et il s'est rendu compte que l'erreur moyenne était de, je dis une bêtise, hein, mais quelque chose comme 5 kilos. C'est-à-dire que l'erreur moyenne, c'était 5 kilos ou 50 kilos, bon, peu importe. Mais quand on faisait la moyenne des erreurs, là, on arrivait à 500 grammes de la bonne réponse. Et en faisant la médiane... la médiane était à 500 grammes et la moyenne, il arrivait à quelque chose comme 100 grammes du poids. Donc en fait, l'idée de ces marchés prédictifs, c'est de se baser sur cette logique statistique qui fait qu'en fait, collectivement, on corrige les erreurs des uns, corrige les erreurs des autres. Il y en a qui vont surestimer le poids, d'autres qui vont le sous-estimer. Et quand on met ensemble ces estimations... Eh ben, on arrive proche de la réponse. Il y a des expériences qui ont été menées à Stanford, par exemple, auprès de juristes, auxquels on a demandé d'évaluer, on leur a donné des cas de procès au pénal, et on leur a demandé d'évaluer la peine qui avait été infligée aux prévenus. Et les étudiants, donc c'est des étudiants en droit qui ont participé à l'expérience, et les étudiants en droit font 20% moins bien à peu près qu'un avocat avec 30 ans d'expérience. Mais quand on met un groupe d'avocats d'étudiants de 30 ou 40, ils font mieux que l'avocat tout seul. Et il faut alors deux avocats pour qu'à nouveau ceux-ci fassent mieux que les étudiants. Donc en fait, il y a plus on est nombreux, disons, plus on se rapproche de la bonne réponse, de la bonne estimation, même si le rendement est décroissant. C'est-à-dire qu'il y a au bout d'un moment où finalement, plus on ajoute du monde et les rendements sont de plus en plus faibles, donc il y a plus vraiment d'intérêt à augmenter les groupes. Mais voilà l'idée générale. Donc les marchés prédictifs fonctionnent comme des marchés boursiers, sauf qu'au lieu d'acheter des actions ou des obligations, vous achetez des événements. Est-ce que la Chine va envahir Taïwan ? Oui, non. Si vous achetez du oui, si le oui passe, eh ben, vous gagnez 100. Si le oui passe pas, vous gagnez 0.
Vous voulez dire ça, c'est les gens qui sont dans le panel ?
Là, les gens qui sont sur le marché.
Ils misent sur le truc.
Ils misent, ouais. Et ce qui se passe, c'est que quand la plateforme commence, demain, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme d'Hypermind. Nous, on a travaillé avec Hypermind. On a fait une expérience avec eux. On leur a soumis des questions, etc. Vous vous inscrivez. Vous avez un espèce de capital de départ, si vous voulez. Et quand vous répondez bien, vous gagnez de l'argent. Quand vous répondez mal, vous en perdez. Et au bout d'un moment, si vous répondez trop souvent mal, vous n'avez plus de capital. Vous êtes exclu de la plateforme. Donc, plus la plateforme dure... plus elle est efficace, puisque ne reste sur la plateforme que ceux qui parient bien. Voilà. Et l'intérêt de ces plateformes, c'est qu'effectivement, elles font beaucoup mieux que les sondages, mais elles font aussi beaucoup mieux que les experts. En tout cas, quand les experts travaillent tout seuls dans leur coin. Voilà, donc c'est assez fascinant. C'est troublant pour des chercheurs, d'ailleurs. Mais il y a quand même une limite très importante. C'est qu'un marché prédictif ne peut répondre qu'aux questions qu'on lui pose. Donc oui, est-ce que la Chine va envahir Taïwan ? Oui, très bien. Est-ce qu'on peut rencontrer un cygne noir en arrivant en Australie? Ça, personne ne pose la question, donc on ne peut pas le prévoir. Donc c'est une limite importante, mais qui ne rend pas du tout inutile cette méthode.
Oui, moi je dirais simplement sur qu'est-ce que ça veut dire pour le rôle des chercheurs, que il faut pas, en fait, l'analyse qu'on fait de ces trouvailles-là, de ces savoirs-là, elle ne veut pas dire que la compétence ne joue pas dans la possibilité de faire des bonnes productions, justement. Et donc, la question, c'est comment on définit la compétence. Mais le problème, c'est que les marchés prédictifs peuvent être parfois utilisés pour, en fait, alimenter une rhétorique populiste qui dit, finalement, les élites sont inopérantes. Et donc, voilà, c'est la sagesse des foules. Donc là, moi, je pense à Gustave Le Bon beaucoup plus. Alors que quand on regarde dans le détail, pas du tout. La question, justement, des avocats, l'exemple donné, ou alors l'exemple de la foire, en fait, il n'y avait pas non plus de spécialistes des bœufs. Ça n'a pas été évalué. Et le fait que sur une plateforme comme Hypermine, c'est la compétence qui fait le tri à la fin. Ça montre que cette information, ce n'est pas un savoir qui est partagé par rien, partagé par le plus grand nombre.
Oui, en fait, ce n'est pas tant la question de la compétence que la façon dont on s'informe. C'est ça les enseignements qu'il faut tirer des marchés prédictifs. Il y a Philippe Tetlock qui a mené de nombreuses études, c'est un cognitiviste aussi, il a beaucoup travaillé sur les marchés prédictifs, aussi pour les services de renseignement d'ailleurs. Et ce qu'il montre, c'est que...
Les services de renseignement se servent des marchés prédictifs ?
Alors, on ne sait pas jusqu'à quel point, mais la CIA a mené pendant 5 ans une expérimentation sur les marchés prédictifs, qui a d'ailleurs conduit à la victoire des généralistes extérieurs à la CIA sur les analyses de la CIA. C'est-à-dire que les analyses de la CIA avec du renseignement classifié ont fait moins bien que les plateformes de marché prédictif en termes de prévision.
Effectivement, c'est un peu déprimant.
C'est un peu déprimant. Ou pas d'ailleurs, ça peut être aussi très stimulant. Mais non, ce qui est intéressant, ce qu'a noté Philippe Tetlock, c'est que ceux qui réussissent le mieux, en fait, ont une façon de travailler qui est assez singulière, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont très peu d'a priori, ils s'attachent très peu à leurs idées. En fait, ce n'est pas les leurs. Il n'y a pas d'idée d'appropriation, de c'est ce que je pense et je le défends. Donc, ils changent très facilement d'avis. Dès qu'ils observent le marché, dès qu'il y a un nouvel événement, etc., ils peuvent tout à fait abandonner l'idée ancienne. Mais il y a une incitation par le gain. Hein. Je pense que ça joue un rôle très important.
Il y a toujours une incitation par le gain. Enfin, je veux dire, qu'il soit monétaire ou pas. Enfin,
oui,
tous les analystes, que ce soit en termes réputation de carrière, etc., il y a toujours un gain à bien prédire quelque chose.
Et ce qui est très important aussi, c'est que les meilleurs... Et nous, on le vérifie aussi dans ce qu'on a pu faire avec Hypermine. Les meilleurs sont des gens qui s'informent contre. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont aller lire en priorité ceux qui pensent différemment.
C'est les sceptiques.
C'est pas forcément qu'ils soient sceptiques, mais ils se disent, voilà, moi je mise de l'argent ou je veux gagner de l'argent, donc j'ai mon opinion. Ce qu'il faut éviter, c'est de prendre la mauvaise décision. Donc je vais d'abord aller lire ceux qui disent le contraire. Qui penchent de l'autre côté, pour voir si je ne suis pas en train de me tromper. Parce qu'ils ne veulent pas perdre de l'argent. Donc, ils sont dans cette démarche, et ça demande une espèce de ductilité, de souplesse d'esprit, qui est, je pense, un enseignement qu'on devrait tirer pour d'autres pratiques. Un dernier point pour dire qu'on a parlé beaucoup de pays occidentaux.
Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, je voulais tout à l'heure vous poser une question parce que j'ai vu que la Chine les Chinois font des choses...
Ils commencent à s'y intéresser aussi. Et,
même avec des auteurs de SF.
En janvier 2022, ils ont lancé pour la première fois un concours de nouvelles de science-fiction sur la guerre du futur. Donc c'est ouvert à tout le monde, tous les Chinois peuvent participer, envoyer une nouvelle, et ils doivent simplement, le focus, c'est très techno-orienté, donc il faut que le papier, la nouvelle, envisage l'impact sur la guerre de nouvelles technologies ou d'avancées scientifiques en physique, en chimie, en biotechnologie, etc. Donc c'est très orienté sur les nouvelles technologies. Bien sûr, on n'a pas le concours est fini, on n'a pas les résultats, mais on sait que le concours a été inspiré par les services de renseignement chinois, par contre.
Oui, je voulais juste préciser que l'IHEDN, donc l'Institut des hautes études de la Défense nationale, avait aussi lancé son concours, je crois que c'était en 2021, de nouvelles, donc je crois que c'était les imaginaires stratégiques ou quelque chose comme ça. Donc on ne sait pas évidemment si les Chinois se sont inspirés de l'IHEDN, ce serait une grande victoire pour l'Institut. Et je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit, Paul, sur la...
Mais encore une fois, c'est fascinant parce que c'est donc, on fait appel au grand public, etc. Et un peu comme pour la Red Team, les auteurs de SF, on n'a pas vraiment de restitution à la fin. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Moi, je paierais très cher pour savoir les scénarios de la Red Team qui restent classifiés, parce que je suis sûr, en voyant tous les beaux auteurs de SF qui ont été réunis, je suis sûr qu'ils ont produit des trucs incroyables, et j'en ai pas énormément vu, en tout cas à mon goût, dans le bouquin, quoi. Excusez-moi, je vous ai...
Oui, mais ce qui serait intéressant d'ailleurs de les publier, enfin je trouve qu'il y a des fois en fait une sorte de confidentialité un petit peu excessive par rapport à tout ce qu'on peut faire en prospective, notamment parce qu'on n'ose peut-être pas dire qu'on se trompe, enfin qu'il y a un risque en fait de se tromper. Par exemple, la CIA, enfin le National Intelligence Council ose publier Le Monde en 2035. Je pense pas que la France malheureusement ait les capacités pour l'instant de publier cet équivalent, mais en tout cas, ce serait intéressant d'avoir un petit peu plus d'ouverture sur la prospective et de montrer que l'on fait des choses, et même si on se trompe, mais même dans le domaine des exercices en fait, ou des wargames, on voit qu'on se base sur des pays imaginaires. Enfin, Orion 2023, c'était Arnland versus, j'ai oublié le nom de l'autre pays, mais je trouve que ça enlève en fait à l'incarnation et donc à l'efficacité du wargame, ou même des démarches plus larges du red teaming, le fait de ne pas nommer en fait son ennemi alors même qu'on essaie de l'incarner. Et dernier point sur les...
On comprend très bien pourquoi ils le font, parce que si on jouait une invasion de la Russie et qu'on le disait comme ça, etc., avec tous les trucs dans la presse, ce serait ressenti comme vaguement agressif par les Russes. Mais enfin, vous me direz qu'on n'en est peut-être plus là.
On
n'en est peut-être plus là. Mais cela dit, on voit bien pourquoi c'est cette pratique-là qui est hégémonique depuis très longtemps, hein. Ça fait très longtemps qu'on ne nomme pas les adversaires dans les exercices militaires. Cela dit, il est vrai que ça déchaîne moins les foules et ça suscite moins l'intérêt que de nommer des pays fictifs.
Oui, et puis les Américains le font et font des publications justement sur leurs résultats de wargame ou parfois sur leurs résultats d'exercice. Et dernier point en fait sur la conception en eux-mêmes en fait des wargames ou même des scénarios, c'est une question un sujet très intéressant que vous avez soulevé en parlant des marchés prédictifs, c'est qu'on ne peut leur poser que des questions en fait dont on a nous-mêmes conscience en fait. Et donc quand on design un wargame ou quand on réfléchit à des scénarios, c'est uniquement c'est nous-mêmes en fait qui pouvons des fois apporter des biais, nos propres biais par rapport aux questions qu'on lui pose. Et ça, c'est très intéressant d'avoir ça en tête, que en fait un wargame, il ne permettra que en fait de voir le résultat d'une situation qu'on a nous-mêmes imaginée, avec parfois des petites variables en fait en fonction du joueur, en fonction des équipes. Mais et ça, on l'a dit aussi, on peut pas en fait s'en servir pour prédire une situation, parce qu'il y a beaucoup trop de variables indépendantes. Et donc, toute la démarche américaine qui consiste à dire que, regardez, on a simulé une invasion de Taïwan 20 fois, et à chaque fois, effectivement, les Chinois perdaient, les Américains gagnaient, mais avec quand même des pertes assez importantes, ça, c'est quand même utilisé, à mon sens, pas comme une façon d'entraîner les forces armées, mais même de tester des doctrines, mais bien dans une démarche d'influence, par exemple pour signaler au Congrès américain que c'est scientifique, on l'a testé 20 fois, pour gagner à Taïwan, il nous faut tel et tel matériel. On se doute bien que c'est pas forcément le cas, et donc il y a cette démarche d'influence. Et donc là aussi, alors que l'influence vient d'être érigée en sixième fonction stratégique, le wargame et les scénarios, à condition d'y mettre peut-être un peu plus de publicité, pourrait servir là aussi à des démarches d'influence, à condition que ce soit évidemment extrêmement professionnalisé, histoire qu'on ne se ridiculise pas en fait en essayant de publiciser tous ces éléments.
Juste pour ceux que ça intéresse, ce que vous racontez sur les scénarios d'invasion de Taïwan, c'est très public, il y a un très bon article d'Alexandre Sheldon Duplay dans le dernier numéro de DSI de mars-avril, où il détaille tout à fait ça, en fait, les simulations qui ont été faites et ce qui se passerait dans les différents wargames qui ont été joués. Amélie Ferret, pour le mot de la fin, peut-être ?
Oui, simplement, donc, pour compléter ce qu'a dit Héloïse, je pense que un des problèmes sur le fait qu'on ne puisse pas poser la question, enfin qu'en posant la question, on introduit des billets. Une des réponses, c'est la diversification des profils. Et ça, c'est très important aussi de le faire. À la fois, vous avez fait une émission sur la féminisation, donc je ne peux que aller dans ce sens, mais pas que sur la féminisation de tous les profils. Je pense que c'est important aussi au niveau stratégique, justement, pour permettre de ne pas passer à côté d'impensé. Et l'autre point qui est aussi décisif, c'est, on ne l'a pas assez dit, je pense, c'est l'environnement safe to fail. Donc, de créer un jeu ou de créer un futur possible, ça donne le droit à l'erreur. Et on sait que la science progresse par l'erreur. Et donc, le problème en France, c'est qu'on a vraiment besoin, dans notre système éducatif, mais aussi dans nos réflexes de pensée, de dédramatiser l'erreur et de ne pas être averse au risque intellectuel.
Oui, et en plus, c'est quelque chose que vous avez dit aussi tout à l'heure, mais il y a un vrai problème hiérarchique, il y a un vrai problème culturel par rapport à ça. Le jeu permet, dans une certaine mesure, quand il est bien compris, de contourner ça, mais ça ne nie pas. Mais c'est vrai qu'il y a un problème, on en parlait il y a longtemps avec Antoine Brioude. Voilà, quand un général 4 étoiles joue contre un aspirant ou un lieutenant, eh ben, il n'a pas forcément envie de perdre, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément les faire jouer ensemble, ou si c'est le cas, il faut vraiment bien leur expliquer, etc. Et ça renvoie aux problématiques d'homogénéité de la pensée qu'on a esquissé à un moment, mais qui sont réelles. Voilà, dans les armées, on forme les gens et on les forme dans un certain moule. Il faut réussir à permettre la pensée divergente, même à l'intérieur d'un moule originel relativement similaire.
Ce que fait le collimateur.
Écoutez, si vous le dites, j'espère en tout cas. Merci beaucoup à tous les trois pour cette discussion très riche, très longue aussi, mais c'est toujours ça quand on est à trois. Et puis, c'était une discussion très agréable puisqu'on a en plus fait des tours par les abeilles, les bœufs et l'organigramme du ministère des Armées, ce qui sont toujours des excursions extrêmement plaisantes. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, Paul Charron, donc directeur du domaine renseignement anticipation et stratégie d'influence à l'IRSEM, et Amélie Ferré et Louise Fayet, donc chercheuses au Centre des études de sécurité de l'IFRI et autrice de ce briefing stratégique de l'IFRI intitulé « Imaginer au-delà de l'imaginaire, red teaming et serious games au service de l'anticipation et de la prospective » qui évidemment est librement disponible sur le site de l'IFRI, qui est par ailleurs pas très long, c'est une quinzaine de pages, ça se lit très facilement et très bien. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Merci à vous.
C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques, retours, commentaires, notes, etc. sont appréciées par mail sur les réseaux sociaux de l'IRSEM ou sur les plateformes dédiées d'Apple Podcast ou de SoundCloud. Merci à toutes et tous et à la prochaine.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.